Donc j'aimerais continuer un petit peu sur le thème de dimanche dernier. Juste un petit rappel, le titre du message, c'était le chaînon manquant. Et je vous avais expliqué qu'on est tous en recherche de ce chaînon manquant d'une manière ou d'une autre. Certains, au travers des histoires familiales, essaient de trouver l'origine de certaines choses. Et pour eux, c'est un chaînon manquant. Il y a des blessures liées à ce qui a pu arriver dans les familles. Et on essaye de restaurer le passé. Les scientifiques aussi cherchent le chaînon manquant. Hein, ils essayent de savoir un petit peu comment le passé s'est composé, c'est qu'à le dire, comment il a été structuré, comment le monde a été formé. Et puis d'autres, ça c'est dans le domaine religieux ou spirituel, où nous essayons de faire un lien entre ce que nous vivons ici aujourd'hui et ce qu'il nous attend dans l'éternité. Et le problème de l'humanité, c'est qu'elle est en recherche en permanence. Elle recherche ce chaînon manquant. Quel est le lien entre ce que nous vivons et une forme d'insatisfaction parfois. Rappelons que l'Ecclésiaste dit que Dieu a mis dans nos cœurs la notion de l'éternité. Et donc il y a cette recherche. Et parfois on cherche aussi à aller mieux et on essaye de trouver ce lien qui manque à notre bonheur, comment on pourrait être heureux. Et donc, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours un manque dans notre vie. Et en tant que chrétien, ça peut nous arriver aussi. C'est-à-dire que nous pouvons connaître le Seigneur depuis de nombreuses années et en même temps vivre une forme d'insatisfaction spirituelle, une lourdeur, manque d'espérance. Parfois, on peut être blasé. Et la raison en est que c'est qu'il y a quelque chose qui s'est cassé dans la chaîne. Il y a un chaînon qui manque là. Et donc il est important pour nous de se poser la question et de se dire, mais comment je vais trouver ce chaînon manquant? Comment je vais pouvoir marcher d'une manière qui puisse m'épanouir, qui puisse me rendre heureux, sans péché? C'est ça qui est difficile. Parce que le monde aujourd'hui obtient des satisfactions éphémères en péchant, mais lorsqu'on a une notion du bien et du mal et qu'on a des choix à faire, parfois on ne fait pas les bons choix. Parce qu'en même temps, il y a quelque chose qui nous manque et on croit que le péché nous permet d'être comblé. Mais Dieu a autre chose à nous proposer. Et on va relire ensemble Luc chapitre 2, donc cette annonce faite aux bergers qui ont une vision, ils voient des anges, et des anges qui leur annoncent une bonne nouvelle. Et on va lire donc à partir du verset 8, donc on va dans une première partie voir un peu ce passage, et on y reviendra à la fin du message, puis ensuite on va se balader un petit peu dans les Écritures. Mais en Luc chapitre 2, verset 8 et suivant, il est écrit, « Il y avait dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Je rappelle ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est que les bergers n'étaient pas en odeur de sainteté à l'époque. Les bergers étaient considérés comme des malfrats, des citoyens de seconde zone. Ils n'avaient pas le droit de témoigner dans les procès. On les évitait. Et comme en plus ils n'avaient pas le droit d'accéder au culte en Israël, ils n'étaient pas instruits dans la loi de Moïse. Donc ils rentraient dans un cercle vicieux qui les amenait à être de plus en plus au banc de la société. Et c'est vrai que ça arrangeait tout le monde que ces personnes durant le printemps et l'été aillent dans les montagnes parce que comme ça on était débarrassés d'eux. Et c'est intéressant de voir que Dieu a décidé de s'adresser à des bergers, pour annoncer la bonne nouvelle, pour recevoir l'accomplissement des promesses faites en Israël depuis des siècles. Et ce qui va leur être annoncé va transformer leur vie. Et c'est là où il y avait peut-être un manque dans leur vie. Je ne sais pas quelle était leur vie, ce qu'ils avaient pu faire auparavant. Toujours est-il que, à ce moment-là, lorsqu'ils reçoivent la bonne nouvelle, leur vie est transformée. Parce que ce qui manquait à leur existence, ce chaînon manquant, leur a été proposé par Dieu. Et en fait, tous autant que nous sommes, le chaînon manquant, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas de plénitude en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas une réponse à nos questions en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas la paix de Dieu si on ne passe pas par Jésus-Christ. On ne peut pas goûter à l'amour de Dieu si on ne passe pas par l'intermédiaire qui est notre prêtre, notre roi, notre Seigneur, celui qui s'est fait homme pour révéler le Père et aussi pour révéler la grandeur du péché de l'homme. Et la grandeur du péché de l'homme se manifeste à la croix. À la croix, nous voyons combien l'homme est pécheur. Et nous voyons combien le prix a dû être payé par Jésus-Christ. Et donc Jésus-Christ est ce chaînon manquant qui permet à toute vie d'être restaurée, d'avoir une espérance, d'avoir un avenir, d'avoir une destinée qui change. Et là, on continue au verset 11, il est dit, c'est donc voilà la promesse qui est faite par les anges, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Si ces bergers juifs étaient un peu au courant des promesses faites à Israël, ils savaient que la nation attendait un Messie, attendait un Sauveur. Et là, il y a les titres du Seigneur Jésus-Christ qui sont écrits, Sauveur, Christ, c'est-à-dire celui qui a autorité, qui est oint par Dieu pour le faire, il est le Seigneur. Mais si on continue un petit peu, là on commence à être un petit peu surpris, et on va découvrir ensemble de quelle sorte de foi nous devons être animés. Parce que parfois les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas selon nos normes. On s'attend parfois à ce que Dieu agisse de telle ou telle manière, et puis il va agir d'une autre manière. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas. La question, c'est d'être sensible à sa voix et d'obéir à ce qu'il nous communique. Donc là, dans un premier temps, voilà, je vous annonce une bonne nouvelle, le Sauveur vient, le Messie est là, un descendant de David. Donc les bergers se réjouissent, c'est déjà une bonne nouvelle, ils voient ces anges qui leur révèlent ça. Mais ensuite, verset 12, « Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. » Donc là, on se dit, quel signe ça va être ? Ça va être une grande lumière, ça va être une grande puissance, la terre va trembler, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, voilà le signe. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Un bambin qui vient de naître, emmailloté, pas dans un berceau royal, dans une mangeoire, parce que le mot crèche, on a oublié, c'est devenu tellement religieux comme mot, mais le mot crèche, en réalité, en grec et en hébreu d'ailleurs, quand on lit certains passages d'Ésaïe, ça signifie mangeoire pour le bétail. Donc voilà David, le fils de David, le Seigneur, le roi, le Fils de Dieu, et je vais vous dire comment vous allez reconnaître que c'est lui. Il est emmailloté dans une mangeoire. Il faut avoir de la foi pour croire en ce genre de paroles. Alors évidemment, vous allez me dire, ce sont des anges qui parlent. Mais vous savez, même les anges ont communiqué parfois certaines choses et ceux qui ont entendu n'ont pas cru. De la même manière que la parole de Dieu est prêchée aujourd'hui et les gens ne la croient pas forcément. Et pour la croire, il faut avoir confiance, c'est-à-dire dire voilà, ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu. Et ces anges ont obéi à cette révélation, parce que qu'est-ce qu'ils font ensuite ? Soudain se joignit donc à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu, et là vous avez un chant, au verset 14, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Ce qui est intéressant, c'est que dans les Écritures, alors que ces personnes n'étaient pas bien vues par la société, en réalité, dans toute la Bible, on voit que les bergers ont une place toute particulière dans le cœur de Dieu. Abraham était un berger. En tout cas, il avait d'innombrables troupeaux. David, le roi David, a été berger avant de devenir roi. Le prophète Amos a été un berger aussi. Et Moïse, alors qu'il a dû fuir l'Égypte, a été berger pendant 40 ans. Donc la notion de berger, c'est une notion qui plaît au cœur de Dieu, et c'est pour ça d'ailleurs que Jésus-Christ est appelé aussi le berger. Parce qu'un berger a cette caractéristique d'indiquer un chemin, d'indiquer une direction à un troupeau. Et d'une certaine manière, nous qui sommes croyants, nous sommes tous, un tant soit peu, des bergers. Nous sommes là pour donner une direction aux gens. Voilà la solution. Voilà la vie éternelle, voilà le salut, voilà Jésus-Christ, celui qui peut donner la paix dans votre cœur, qui permet des restaurations extraordinaire, ce chaînon manquant entre une vie terrestre et une vie spirituelle, entre ce qui est naturel et ce qui est surnaturel, entre ce qui est visible et ce qui est invisible, entre ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Un lien aussi entre la vie et la mort. Et quand je parle de la mort, c'est l'absence de cette vie-là, mais sachant qu'il y a une autre vie après cette vie-là, que l'on appelle la mort. La mort, c'est du point de vue terrestre. La personne n'est plus là, son âme n'est plus là. Mais l'âme est encore quelque part. Et donc, il faut un lien. Comment connaître le sentier pour arriver à la vie éternelle? Comment savoir ce qu'il y a après la mort si on ne me révèle rien? Je ne peux pas deviner. Beaucoup de gens devinent, ils tâtonnent, ils font des suppositions, des théories. Mais quelle est la certitude, quelle est l'assurance que nous avons s'il n'y a pas de révélation? Il faut que celui qui a déjà été au-delà de la mort et qui en revient puisse nous expliquer. Et le seul qui a pu faire cela, le seul homme qui a pu le faire, c'est Jésus-Christ parce qu'il est ressuscité. Et donc, ces bergers reçoivent cette nouvelle et ils vont être aussi des poteaux indicateurs, des personnes qui vont indiquer aux autres quelle est la direction, où est le Messie. Mais avant cela, ils vont obéir, c'est-à-dire qu'ils vont se rendre à Bethléem et ils vont aller voir cet enfant. Parce qu'ils ont, dans un premier temps, été orientés par Dieu et ils ont obéi à la parole de Dieu. Et vous savez, le christianisme, d'une certaine manière, c'est pas très compliqué. Parfois, il faut le reconnaître, le christianisme a compliqué les choses. Mais le message de l'évangile est assez simple. Le message de l'évangile, c'est écoutez, croyez. Écoutez, croyez. Et si vous croyez, il va se passer des choses dans votre vie. Et vous allez des fois faire même des choses différentes de ce que vous pratiquiez avant. Pour certains, ça va engendrer une vie complètement différente à la précédente. Certaines personnes vont être transformées. Parce qu'avant, ils étaient errants dans cette existence, et à un moment donné, la chaîne s'est reconstruite. L'homme que nous sommes, les êtres humains, créés à l'image de Dieu, nous commençons à vivre avec la plénitude de Dieu, parce que le Saint-Esprit nous a touchés. La vie éternelle nous a attrapés. Nous avons une vie temporelle, nous avons une vie qui est provisoire, mais il y a la vie éternelle, une vie qui ne s'arrête jamais et qui est belle en plus. Parce que si c'est celle-là qui ne doit jamais s'arrêter, personnellement, j'en veux pas. Mais moi, ma consolation, c'est de savoir que celle-là est provisoire. Elle n'est pas horrible, mais de savoir qu'elle puisse durer éternellement, ça ne m'enthousiasmerait pas tellement. En revanche, nous avons une espérance, c'est que Dieu nous a préparé quelque chose. Et donc ces bergers avaient une vie très simple, et il peut en être de même pour nous. Qui sommes-nous sur la terre? Qui fait attention à nous? Bien sûr nos proches, on peut espérer, mais pour le reste, notre vie est une vapeur, elle passe. Nous naissons, nous partons. Qui se souviendra de nous dans 50 ans, dans 100 ans? Pas grand monde. Alors, évidemment, si on veut marquer l'histoire humaine, terrestre, il faut faire de grandes choses avant de partir, en espérant que notre nom va perdurer. Hein. On parle de Platon encore aujourd'hui. Bon. Mais Platon, il n'est pas là pour voir que son nom est encore utilisé. Mais voilà, c'est le seul espoir qu'on peut avoir. Mais nous avons, nous, une autre espérance. Nous savons que même si nous sommes des gens simples, peu connus, qui faisons à vue humaine peut-être pas de grandes choses, nous avons un métier qui peut paraître ordinaire, nous avons une vie de famille, un budget moyen, voilà, nous sommes comme les autres. Mais en réalité, lorsque nous croyons, nous devenons la prunelle des yeux de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes regardés, considérés, aimés. Et nous avons une assurance pour la vie éternelle. Ce qui fait que toute vie, aussi simple soit-elle socialement parlant, culturellement parlant, elle devient belle lorsqu'on devient chrétien. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce qu'il y a un lien qui a été reconstruit entre Dieu et nous. ce chaînon manquant qui a été restauré là, qui nous a été offert par Jésus-Christ. Et il y a un lien qui transcende cette simple existence et qui nous permet de marcher jour après jour malgré les difficultés de la vie qui demeurent néanmoins. Elles demeurent. Quelqu'un qui est malade, il est malade. Quelqu'un qui est handicapé, il est handicapé. Quelqu'un qui est chômeur, il est chômeur. Quelqu'un qui a des problèmes, des fois familiaux, des problèmes de couple, des problèmes avec ses enfants. Parfois, ça ne va pas disparaître en un jour. Les situations restent difficiles. Mais, tout comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, il y a une ancre attachée à notre âme et qui nous amène jusqu'au ciel. Et il y a cette assurance que nous avons et que le Saint-Esprit nous a communiquée et qui fait que nous pouvons traverser les périodes difficiles d'une autre manière. Et en plus, nous pouvons prier et parfois Dieu intervient dans sa souveraineté. Nous avons un ami, nous avons quelqu'un qui nous aime. Le Saint-Esprit est appelé aussi le consolateur. Les chrétiens ont cet avantage, je dirais, ce privilège de pouvoir être consolés. Un chrétien qui n'est pas consolé n'a pas une relation correcte avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit est le consolateur. Et si nous sommes remplis du Saint-Esprit, comme ça nous est encouragé par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, nous sommes forcément remplis de consolation, remplis d'espérance. Et donc, les bergers étaient des personnes très simples, néanmoins, on parle d'eux. On ne connaît pas leur nom de famille, mais on parle d'eux, dans la Bible. Ces gens qui étaient la nuit là, en train de... Ils avaient gardé le troupeau toute la journée, c'était une nuit comme une autre. Eh bien, ce qu'ils ont vécu, nous le lisons encore aujourd'hui. Ce sont des héros de la foi. Et donc, nous voyons là que cet acte de foi, qui était une parole qui était prononcée par les anges, envoyée par Dieu, ils ont cru en cette parole, et en même temps, cette parole était ténue un peu. Allez voir, le Messie, c'est un petit bébé là. On pourrait se dire, mais attends, le Sauveur, quand est-ce qu'il va nous sauver là? Il faut attendre encore quelques années. Ils n'ont pas posé cette question. C'est simplement, ils ont cru, ça suffisait. Et parfois, dans notre vie, Dieu intervient avec des petites choses, avec des petits commencements, avec quelque chose qui, voilà, c'est pas un tremblement de terre, c'est pas un grand fracas, c'est Dieu qui intervient par une petite touche, une pensée, une parole, un encouragement. Parfois, il nous reprend aussi. Mais ces petites choses nous aident à avancer dans la bonne direction. Et ça ne veut pas dire que Dieu ne fait rien parce que ça a l'air petit. De la même manière, ce bambin là, ce petit, le Dieu fait homme, mais cet homme, quel est ce gaillard? Il va être plus grand que Goliath? Non, il est dans une mangeoire emmaillotée là, c'est lui le sauveur du monde. Vous y croyez? Vous savez, quand je suis venu à Christ, j'ai reçu la vie de Dieu, je le sais, et en même temps j'ai pas reçu, je vais m'expliquer après, mais j'ai pas reçu grand chose. Ce que je veux dire par là, c'est quand j'ai cru Dieu et que j'ai eu cette révélation dans mon cœur, dans mon esprit, c'était sûr et certain. Je suis pas entré en lévitation, j'ai pas marché sur les plafonds, je me suis pas mis à voler, j'ai pas dit bon bah demain je veux gagner 10 000 euros par jour, et puis voilà c'est arrivé. Non, il s'est pas passé grand chose dans ma vie, et pourtant ça a été une révolution. Une vie de Dieu qui s'installe. Tout comme dans le monde, ce petit dans les langes qui est né. Et ça signifie que la vie éternelle va accomplir les prophéties faites dans l'Ancien Testament. Et de la même manière, dans notre vie, en tant que chrétien, après, peut-être qu'on entend un message, il y a une pensée qui nous touche. Et ça a l'air de rien, mais chérissons cette pensée, cultivons-la. Un peu comme les bergers, allons voir cette petite pensée, méditons dessus, prenons des décisions si notre méditation nous amène peut-être à changer de façon de penser, à aller dans une autre direction. Ne pensons pas que bon, c'est une pensée de plus, c'est un culte de plus, c'est une prière de plus, c'est une circonstance de plus. Non, des fois c'est dans les petites choses que commencent les grandes. Jésus est né et il a grandi. Un an, 2 ans, 3 ans, anonyme, Personne n'a vu grandir pratiquement, à part ses parents. 15 ans, 16 ans. Qu'est-ce qu'il fait ? Charpentier. Allez, on va limer du bois, scier du bois, fabriquer des meubles, que sais-je. Une vie ordinaire. Pas plus belle qu'un berger, d'une certaine manière. Il visait pas de grandes choses. 20 ans. 21 ans. 22 ans. Peut-être que dans son entourage, dans le village, il n'est pas marié. Qu'est-ce que fasse-t-il ? Personne ne veut de lui. 24 ans. 25 ans. Et puis à 30 ans, là c'est le moment de partir. Il va voir Jean-Baptiste, il se fait baptiser, il reçoit l'onction du Saint-Esprit, et là il commence à rentrer dans le combat spirituel. Et en 3 ans, il va révolutionner un pays, par sa prédication, par ses enseignements, par ses miracles, par sa manière d'agir, jusqu'à la croix. Et là, à la croix, il va porter tous nos péchés. Tous nos péchés. Tout ce qu'on a pu faire de mal et ce qu'on fera de mal demain. Tous nos péchés, il les a pris en payant à notre place, en versant son sang pour nous, parce que Dieu nous aime. Ce petit bambin, dans une mangeoire, qui n'avait l'air de rien, a été une source d'espoir pour ces bergers et pour d'autres aussi, parce qu'ils étaient sûrs que Dieu allait accomplir sa parole. Et c'est ça qui plaît à Dieu, c'est que nous croyons qu'il va accomplir ce qu'il a promis. Alors évidemment, des fois, nous, un peu comme les enfants avant Noël, on veut les cadeaux. Hein. Alors le 20 décembre, les enfants commencent à s'agiter, et puis le 21 décembre et le 22, alors quand est-ce que je leur ai mon cadeau ? Et nous, on est un peu comme ça avec Dieu. Quand est-ce que je l'aurai mon cadeau ? Mais tu l'as reçu ton cadeau. Simplement, il est en train d'être construit. Il est en train d'être façonné. Tout comme ce bambin va devenir un homme jusqu'à aller à la croix, de la même manière, nous recevons la vie de Dieu à un moment donné, ça a l'air de rien, et puis elle prend de l'ampleur dans notre vie. Elle est arrosée par la parole de Dieu, par les décisions que nous prenons, par les révélations que nous recevons. Et puis on regarde en arrière, on dit « mais je suis plus comme avant ». Et c'est pas fini, il faut continuer de plus être comme avant. Il faut continuer d'être transformé par la parole de Dieu. C'est, sinon, à quoi ça sert ? Je veux dire, vaut mieux rester chez soi. Pourquoi on se rassemble ? Pourquoi on célèbre Dieu ? Pourquoi on fait des choix ? Pourquoi parfois, alors qu'on pourrait vivre d'une autre manière, et on est tenté parfois de vivre d'une autre manière, nous ne le faisons pas ? Parce qu'on a reçu dans notre cœur une promesse. Et cette promesse, elle est peut-être habillée dans un lange pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas croître. Vous savez, lorsque le peuple de Dieu est revenu de l'exil, parce que pour ceux qui ne connaissent pas trop la Bible, Israël, à un moment donné, a été châtié par Dieu. Ils ont été exilés à Babylone pendant 70 ans. Et 70 ans après, ils reviennent. Et là, ils découvrent un chantier à Jérusalem. Le temple de Salomon a été rasé. Et il leur faut reconstruire ce temple. Mais ils tardent un petit peu. Ils s'occupent plutôt de leur maison, ils s'occupent de reconstruire leur habitat, ils cultivent leur jardin, et le temple, on verra après. Donc Dieu envoie un prophète, âgé d'abord dans un premier temps, puis ensuite Zacharie, pour encourager le peuple. Et le chantier, c'est un gros chantier pour reconstruire ce temple. Et vous savez, quand vous avez un temple à reconstruire, et que vous en êtes à la première pierre ou à la deuxième pierre, vous dites, quand est-ce que ça va finir ? Hein, on n'a pas fini. C'est un peu comme les cathédrales. Notre-Dame de Paris, par exemple, ça a été construit en un siècle. Donc ceux qui commençaient le chantier ne voyaient pas la fin. Et des fois, c'est un peu pareil pour nous. On n'en voit pas la fin. Mais, en Zacharie 4:10, il est dit, « Ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. » Le niveau, là, c'est un outil pour voir si le temple est correctement construit. Il y en a qui se disaient, on méprise ce petit commencement, ce chantier qui commence. Mais Dieu fait une promesse, vous allez vous réjouir quand ça va être terminé. Vous inquiétez pas. Il faut pas mépriser les petits commencements. Parfois on comprend pas tout dans la vie chrétienne, on comprend pas tout dans la Bible. On comprend pas tout dans ce que Dieu fait. Mais ça veut pas dire que Dieu ne fait rien. ne pas mépriser les petits commencements, nous accrocher à ça. Et à ce moment-là, eh ben Dieu va commencer à œuvrer en nous, et ça va être merveilleux. Continuons là ce passage de Luc 2, et regardez ce qui est dit, et ça va nous parler quant à notre attitude devant les révélations de Dieu. En Luc, donc chapitre 2, verset 15 et suivant, « Lorsque les anges les eurent quittés, donc les bergers, pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. » Vous voyez, c'est ça le défi qui nous est proposé. Parfois, on entend une voix, on entend une parole, on entend une indication, mais allons plus loin, allons voir ce que ça va donner. Parfois, voir, c'est obéir, voir, c'est croire, voir, c'est prendre ses dispositions, je ne sais pas. Peut-être que certains d'entre vous ont du mal à pardonner à quelqu'un à cause du mal qu'ils vous ont fait, alors que Dieu nous demande de pardonner à notre prochain. Et bien, si cette parole vous touche, en disant, voilà, pardonne, lâche le prise, lâche le morceau, parce que de rester dans la haine, ça, c'est un chaînon dans la chaîne de ta vie qui a été brisée. Tu veux reconstruire ce chaînon manquant ? Pardonne. Et du coup, on entend cette parole et par la foi, on croit, on dit « Ok, Seigneur, aide-moi à pardonner, je sais que c'est la bonne voie, la bonne direction. » Et à partir de ce moment-là, on va vérifier les promesses de Dieu d'une certaine manière, parce que Dieu fait des promesses, mais elles doivent se vérifier, sinon ça sert à rien. Et parce que nous marchons par la foi, nous devenons spectateurs de la vie de Dieu dans la nôtre. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau dans la vie chrétienne. Et donc, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, et c'est là la dernière partie de mon message, c'est là le produit de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que cela fait ? Ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. C'est-à-dire que quand nous voyons la grâce de Dieu en action, on ne peut pas faire autrement que d'en parler. On a envie de parler de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, parce que nous avons reçu une promesse, on a été voir ce que cette promesse pouvait faire dans notre vie, et on se dit, mais c'est vrai, ça marche le christianisme, ça marche la Bible, Dieu est vivant, il y a la vie de résurrection, il se passe quelque chose, j'ai rencontré le Saint-Esprit, voilà, j'ai une identité, je sais d'où je viens et je sais d'où je vais. Et à partir de là, on en parle aux autres, on ne peut pas faire autrement que d'en parler. Parce que c'est la plus belle chose que l'on puisse raconter. Alors au verset 18, il y a les gens qui voient ces bergers là en train de raconter cette blague presque. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Quand on voit la façon dont ça a été écrit, ils sont dans l'étonnement mais ils ne croient pas. Hein. Ils sont un peu, qu'est-ce qu'ils racontent ces bergers ? En revanche, la mère de Jésus, qui elle aussi a reçu des révélations avant par l'ange Gabriel, il est dit au verset 19, « Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. » Et ça, c'est la clé du christianisme. C'est se repasser les choses dans le cœur. C'est-à-dire de garder le dépôt que Dieu a fait dans notre vie. Pas être simplement des personnes qui sont dans l'étonnement. « Ah bon ? Ah bon ? Ah, tu crois encore à ça ? Oh, tu crois en Dieu ? Oh, la Bible ? Oh, les prophéties ? Oh, le petit Jésus ?» C'est un peu comme les gens qui écoutaient les bergers, on disait, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent ? Mais vous avez Marie qui, elle, repasse les choses dans son cœur. Et elle se souvenait de ces choses. Et la vie chrétienne consiste à ça, c'est à méditer sur les promesses de Dieu, sur les promesses qui s'accomplissent et sur celles qui sont encore à venir. Et à partir de là, nous marchons par la foi et nous attendons à Dieu. Et on reste peut-être des bergers, on reste peut-être des quidams, qui sur cette terre ne font pas tellement de vagues, mais pourtant, il y a une grande vague d'amour qui est venue dans notre cœur. Et c'est ce qui a fait la différence. Jésus a dit, c'est dans l'évangile de Jean, il loue son Père de ce qu'il s'est révélé aux gens simples. Et là, c'est ce qui s'est passé. Il s'est révélé aux gens simples. Essayons d'avoir cet après-midi cet esprit de simplicité, un œil simple. Est-ce que tu existes ? Est-ce que tu es capable de toucher mon cœur ? Est-ce que Dieu est vivant ? Est-ce qu'il a envoyé un sauveur ? Est-ce que la Bible est vraie ? Je me saisis de ça et je les repasse dans mon cœur. Et vous allez voir, il va se passer des choses dans votre vie. Que Dieu vous bénisse.